Vous êtes sur RTL. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu qui fleure bon la gastronomie française et l'accent du Sud-Ouest, puisque mon invité aujourd'hui est une grande cuisinière, une habituée de Top Chef. Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. D'abord une petite question. Un samedi à 12h30, en cuisine, on est en plein coup de feu là.
Ah là, ils y sont à fond. Donc voilà, moi j'y serai ce soir avec eux du coup, mais là je suis avec vous, donc c'est un choix que j'ai fait.
Eh bien c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Votre carrière, votre participation, souvent gagnante à Top Chef qui vient de commencer, vos engagements, on va en parler dans ce journal. Mais d'abord les informations que je vous invite à commenter avec moi. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, le rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron avec les agriculteurs. Ils devaient se rencontrer la semaine prochaine, comme le président l'avait promis lors du salon de l'agriculture. Réunion reportée, selon les informations d'RTL. Une cellule psychologique a pris en charge des élèves et des enseignants ce matin au collège de Chenauve, près de Dijon, où un adolescent a menacé sa principale avec un couteau hier. Il est en garde à vue. Alors qu'un bateau a pu décharger 200 tonnes de vivres dans la bande de Gaza, peut-être l'espoir d'une trêve. Un projet de golf qui sème la discorde dans les Pyrénées-Orientales, département frappé de sécheresse. Le crunch, ce soir, dans le tournoi Destination, à un France-Angleterre en rugby, c'est toujours savoureux. Et puis la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors est-ce que le soleil et la douceur vont persister?
Ah bah cet après-midi, oui. Alors le soleil, on va le trouver surtout dans le sud du pays, entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée. Mais on va aussi profiter de très belles éclaircies des Hauts-de-France jusqu'au bassin parisien, en Normandie, en région centre. Bref, un petit peu partout. C'est un tout petit peu plus chargé dans le nord-est avec encore quelques averses, mais également à l'opposé entre la Bretagne et le Poitou. Là, à peine 2-3 ondées et donc la douceur pour tout le monde. 14 degrés à Besançon cet après-midi, 16 à Paris, 17 à Nantes, à Lyon, à Nice, 19 à Bordeaux, 21 pour Biarritz.
Voilà, on se débarrasse des manteaux. Merci beaucoup Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est une information RTL. Le président de la République ne recevra pas les syndicats agricoles la semaine prochaine, comme c'était pourtant prévu. Emmanuel Macron leur avait donné rendez-vous en leur demandant de réfléchir à 4 ou 5 demandes principales sur lesquelles travailler. Finalement, cette rencontre est reportée. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Mais pourquoi ce rendez-vous manqué? On se souvient de cette promesse qui remonte au Salon de l'agriculture.
Vous vous souvenez, hein, la discussion musclée au Salon de l'agriculture, le chef de l'État en bras de chemise, les syndicats d'agriculteurs qui avaient des dizaines et des dizaines de revendications. La FNSEA en avait même listé 120 à elle toute seule.
Donc moi je compte sur vous pour que tout le monde revienne au calme là. Maintenant vous savez que les ministres, la porte est ouverte. Et le rendez-vous dans 3 semaines, il est à la maison.
Bonne soirée dans 3 semaines. Voilà.
Le délai est écoulé, il avait été question d'un rendez-vous lundi ou mardi prochain à l'Élysée. Et finalement rien, rencontre annulée, reportée, pas de date fixée. Emmanuel Macron avait demandé aux syndicats agricole de venir avec 4 ou 5 demandes précises auxquelles il pourrait répondre. Mais Virginie Garin pour RTL vous le révélait, hein, ce matin, la FNSEA a proposé 4 ou 5 chapitres contenant au moins une 60aine de mesures sur les normes, les aides financières, la fixation des prix. Donc, officiellement, l'Élysée préfère leur donner plus de temps encore. Et puis, il y a une autre raison à la colère agricole qui ne retombe pas ces jours-ci. Alors que le gouvernement s'était engagé à obtenir des clauses qui empêchent l'arrivée sur notre sol de produits qui ne respectent pas les règles françaises, eh bien, les sénateurs doivent se prononcer jeudi prochain sur l'accord commercial dit CETA qui inclut la possibilité d'importer du bœuf canadien élevé aux farines animales, une pratique qui est pourtant interdite en France.
Merci Marie Guerrier. Alors comment réagissent les syndicats? Nous avons contacté Christophe Robin de la FDSEA des Yvelines. Il estime que l'État ne fait pas face à ses responsabilités.
C'est un aveu d'échec de la part du gouvernement. Comment il se donne du temps et il repousse le problème sur les syndicats. Ça suit en fait tout ce qui se passe depuis le début, quoi. Ça veut dire que le pas de temps est pas respecté. On avait exigé des réponses dans un pas de temps court, des réponses concrètes.
Mais le gouvernement demande à ce que les propositions soient faites en 4 ou 5 points.
Faut arrêter. Le malaise, on le résout pas avec 4 points. Nous, on a des problèmes concrets. Alors, c'est plutôt à l'Élysée de trouver des réponses à nos problèmes, quoi. C'est fidèle à lui-même, l'État se défausse, quoi.
Réaction recueillie par Hermine Leclèche pour RTL. Hélène Darroze, vous qui êtes en cuisine, qui travaillez des produits du terroir, cette crise agricole, vous l'avez suivie, j'imagine ?
Oui, bien sûr, je l'ai suivie. Et voilà, et c'est bien dommage qu'il y ait ce rendez-vous manqué. Mais bon, je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron va se défausser. Et je pense que, j'espère en tout cas
que c'est reporté.
Que c'est juste reporté, parce que je pense qu'en effet, il faut les écouter. Je veux dire, l'agriculture, c'est quand même. C'est quand même la France, quoi. C'est quand même un point d'économie et puis un point de notre culture tellement importante. Enfin, voilà, je crois qu'il y a un vrai malaise. Il y a de vraies demandes qui sont concrètes et je pense qu'il faut les aider. Ça, c'est sûr qu'il faut maintenant regarder le problème bien en face.
Vous êtes très vigilante sur les produits que vous servez dans vos cuisines ?
Bah, moi, oui, bien sûr, à ce niveau-là de restauration. Enfin, même on devrait l'être tout le temps, hein, mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui privilégie les circuits courts, qui privilégie les produits de saison, qui travaille beaucoup avec des petits producteurs, quoi, hein, et qui essaye de les soutenir et de les mettre en avant comme je peux. Déjà, bon, bien sûr, en cuisinant leurs produits, mais le produit dans mon restaurant à Villa-Lacoste, à Aix-en-Provence, les appellations de mes plats, ça commence par le nom du produit et derrière le nom du producteur avec sa localisation.
Donc vous mettez en avant cette agriculture française.
Bah oui, exactement. Ouais.
Merci pour cette réaction. Beaucoup d'émotions à Chenôve, en banlieue de Dijon, après la tentative d'agression hier au collège Édouard Herriot. Un élève de 3e a menacé la principale de l'établissement avec un couteau. Elle a rapidement déclenché l'alerte. Des élèves ont été confinés dans leur classe jusqu'à l'intervention de la police et l'arrestation de l'adolescent. Aucun blessé, mais des questions et des angoisses chez les élèves, comme chez certains enseignants. Frédéric Perruche est sur place. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Une cellule psychologique a donc été mise en place ce matin.
Oui, et quelques adolescents, une poignée d'élèves de 5e et 4e sont venus avec leurs parents parfois parler avec les psychologues, comme ces deux copines de 13 ans, Charlène et Marie, toujours traumatisées ce matin.
Bah, je suis venue parce que j'arrête pas d'y repenser, ça me stresse. Puis du coup, on m'a dit qu'il fallait que je m'aère l'esprit, que je fasse des activités.
T'as pu en parler, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les psychologues ?
Ils m'ont surtout demandé ce que j'avais ressenti et tout. Plus stress, ouais, la panique. Et j'essaie d'y oublier, même si, voilà, faut en parler quand même.
Au départ, je savais pas si c'était un attentat ou un exercice. Du coup, bah, je me suis dit, je dois juste faire ce que j'ai à faire. Sauf que après, bah, j'ai commencé à avoir peur pour mes amis. Et du coup, bah, j'étais pas très bien. J'ai commencé à trembler et j'ai un peu pleuré.
La principale du collège et des personnels de l'établissement sont également venus se confier aux psychologues, leur parler, comme l'explique Fadila Katabi, secrétaire d'État venue les soutenir.
Ils ont besoin de se retrouver aussi entre eux, d'échanger, de mettre des mots sur cette journée qui a été difficile. Et ils m'ont dit ce mot quand même, ces mots qui sont très importants, c'est-à-dire qu'avant de penser à nous, on a pensé aux enfants.
Et cette cellule psychologique sera reconduite lundi.
Et est-ce que l'on en sait plus, Frédéric, sur le profil de l'agresseur ?
Écoutez, pour l'instant, l'élève de 3e, âgé de 15 ans, n'explique pas son geste. Pourquoi il a menacé la principale avec un couteau ? Pourquoi avoir écrit cette lettre qui fait référence aux attentats de 2015 ? Quant à son profil, le recteur de Dijon parle d'un gamin difficile, déjà exclu de son précédent collège à la rentrée dernière et exclu ces derniers jours d'une classe d'anglais. Il était suivi pour des problèmes de comportement, pas pour des violences physiques.
Merci Frédéric Perruche en direct de Chenôve pour RTL. Les suites du drame de Crépol dans la Drôme et ses aveux du parquet de Valence aujourd'hui. Alors que 14 personnes sont mises en examen dans cette affaire, il est pour l'instant impossible de déterminer l'identité de celui qui a donné le coup de couteau mortel au jeune Thomas lors d'un bal. Le scrutin présidentiel ouvert hier en Russie se poursuit jusqu'à demain. Une élection sans suspense. Il n'y a pas d'opposition à Vladimir Poutine au pouvoir depuis 24 ans et assuré d'être réélu. Il a voté en ligne hier. La Russie, qui affirme par ailleurs avoir repoussé de nouvelles incursions venues d'Ukraine. Selon Moscou, un missile a fait 2 morts et 3 blessés à Belgorod, une ville russe toute proche de la frontière ukrainienne. À Gaza, l'intégralité de la cargaison d'un premier bateau humanitaire a pu être déchargée ce matin. Ce sont 200 tonnes de vivres qui ont été acheminées par une ONG espagnole. Ça reste insuffisant pour les 2,4 millions de personnes qui sont au bord de la famine dans l'enclave. Par ailleurs, les négociations en vue d'une trêve se poursuivent pour l'instant sans résultat, mais l'espoir de parvenir à un accord est ravivé aujourd'hui. Bonjour Sophie Jusselin.
Bonjour, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui donne corps à cet espoir de trêve, Sophie ?
Bien, c'est l'abandon par le Hamas de son exigence principale, alors qu'auparavant il demandait un cessez-le-feu définitif, la fin des combats, en échange de la libération des otages. Il est désormais prêt à accepter une trêve de 6 semaines. Une quarantaine d'otages sur les 130 encore retenus pourraient alors être libérés, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades, en échange de 800 à 2000 prisonniers palestiniens. Le Hamas exige aussi l'entrée chaque jour de 500 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Côté négociation, la Maison-Blanche se dit prudemment optimiste. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré que les pays médiateurs continuaient à travailler à l'obtention de cette trêve sur la base de ces nouvelles propositions. Le bureau de Benjamin Netanyahou a fait savoir de son côté qu'une délégation israélienne allait se rendre bientôt au Qatar, mais sans donner de date précise. Israël n'abandonne pas pour autant son projet d'offensive sur Rafah, au sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés plus d'un million et demi de Palestiniens.
Merci Sophie Jousselin du service international de RTL. Dans un instant, le golfe de la discorde dans un département qui souffre de la sécheresse. Mais que se passe-t-il dans les Pyrénées-Orientales ? On vous dit tout.
Le journal inattendu.
Hélène Darroze, Nathalie Renoumain.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Hélène Darroze et Nathalie Renoux.
Dans les Pyrénées-Orientales, à Villeneuve-de-la-Raho, un chantier fait polémique, celui du futur golf. Une manifestation s'est déroulée ce matin. Vous êtes sur place, Valentin Larquier, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Les défenseurs de l'environnement, mais aussi des riverains, se mobilisent contre l'implantation de ce golf 18 trous, gourmand en eau dans ce département qui souffre cruellement de la sécheresse. Pour les habitants qui subissent toujours des restrictions d'eau, eh bien ce golf, si je puis me permettre, c'est la goutte de trop.
Et tout à fait, c'est aussi une source de nombreuses inquiétudes pour les habitants qui viennent de manifester. Plus de 3000 personnes, dont Frédéric, elle tient une pancarte où il est inscrit « Un golf boit comme un trou ». 600 000 litres d'eau doivent être utilisés par jour pour l'arroser.
Moi, je pensais que c'était un projet tellement antérieur à la situation actuelle que ça passerait plus. On manque d'eau, on en manquera de plus en plus. On n'a pas besoin de pelouse censée être verte pour utiliser cette eau. Et on peut encore l'arrêter avant que ce soit trop tard et qu'il faille qu'il se limite en eau et qu'il y ait des problèmes de distribution d'eau.
Et le chantier a commencé en novembre. Un hôtel et 600 logements doivent être construits également. Et ses défenseurs expliquent que l'herbe verte du golfe sera irriguée par les eaux usées de la commune. Argument inacceptable pour David Berruet, l'un des organisateurs de la manifestation et membre des écologistes.
Les eaux qui viennent des stations d'épuration, ce n'est pas des ressources supplémentaires. C'est des ressources qui peuvent être utilisées à des usages, selon nous, prioritaires. À commencer par l'agriculture, qui est dans une situation catastrophique dans le département.
Le cortège parti du lac est allé jusqu'à la mairie de Villeneuve-de-la-Raho où la maire défend ce projet de golf vieux de 20 ans.
Merci Valentin Larquier dans les Pyrénées-Orientales. Là encore, on a l'impression qu'on marche un peu sur la tête quand même.
Ben oui, on marche complètement sur la tête. Je crois que quand même on est face à une situation au niveau de l'environnement, enfin de la protection de l'environnement, il faut être lucide, quoi. Hein. Il faut quand même regarder la vérité en face et se dire que, alors je comprends, hein, ça doit créer des emplois, ça doit, il y a aussi le pour et
bien
le contre.
Sûr,
hein.
C'est jamais tout.
Il y a des raisons économiques que je suppose la mairie peut aussi défendre, mais il faut trouver un équilibre, c'est toujours pareil.
Allez, après le golf, le football, la Ligue 1 avec deux matchs aujourd'hui, Nantes-Strasbourg à 17h et Lens-Nice à 21h. Hier soir, en ouverture de cette 26e journée, un match à suspense et à but entre Toulouse et Lyon. Les Lyonnais se sont imposés 3-2 grâce notamment à Ryan Cherki, buteur et passeur. Et puis, bien sûr, du rugby aujourd'hui avec Pays de Galles-Italie à 15h15, Irlande-Écosse à 17h45 dans le tournoi Destination, mais surtout le crunch, ce France-Angleterre que nous attendons tous à 21h au Parc OL de Lyon. Et nous rejoignons notre correspondante à Londres, Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour.
Et vous êtes précisément dans la ville qui porte le nom de rugby, ça ne s'invente pas. Et vous y avez croisé des Anglais fans de ballon ovale, mais aussi des Français. Comment est-ce qu'ils voient ce crunch ?
Alors, le crunch, ils le voient et puis ils le vivent. Hein. Depuis l'enfance, Richard, par exemple, a grandi avec un père fan de rugby. Alors, cette rivalité franco-anglaise, il a été élevé avec.
I was born in 1970. Je suis né en 1970. Quand je regardais le rugby avec mon père, en grandissant, les matchs France-Angleterre, c'était brutal. Beaucoup de sang, c'était le carnage. On nous a appris qu'il fallait se détester. La rivalité est si vieille, elle est historique et elle peut rejaillir au rugby parce que, si on s'en rend moins compte aujourd'hui, la violence est une composante importante de ce sport.
Alors ce soir, en fait, Richard compte lever son verre à la victoire de l'Angleterre. Bien sûr, un verre qui sera rempli de son propre gin, du gin au citron, qui vient de la ville de Menton, dans le sud de la France. Un pied de nez à Hexagone, qu'il espère bien piétiner, mais c'est aussi à Menton qu'est enterré le fondateur du rugby. Et c'est sur le terrain où l'Ovalie a été inventée, la pelouse de l'école de rugby, que Gauthier entraîne ses élèves. Ce Français est prof de langue et entraîneur de rugby à 16 heures.
J'ai l'impression qu'elle est plus importante en France, parce que les Anglais ayant été la nation dominante du rugby en Europe pendant longtemps. Mais les Anglais, ils ont des rivalités avec d'autres pays, donc l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, qui sont peut-être, à mon avis, un petit peu plus fortes que la rivalité qu'ils ont avec la France. Voilà.
Alors ce soir, Richard et Gauthier auront chacun leur allégeance. Officiellement, l'important, bien sûr, c'est que ce soit un bon match, mais les critères pour juger la qualité seront peut-être légèrement biaisés.
Merci Marie, en direct d'Angleterre pour RTL. Hélène Darroze, alors vous avez un restaurant à Londres, le Connaught, et puis bien sûr des restaurants en France, et vous êtes française. Alors ce France-Angleterre, vous êtes pour qui?
Moi, je reste française quand même.
Ah, cocorico.
Mais bon, après, moi, je ne ressens pas tellement... Enfin voilà, le rugby, ça reste quand même un sport de gentleman, et cette rivalité même presque, enfin voilà, pas saine, je sais pas, moi je l'ai jamais ressenti sur dans un stade, et voilà, et moi je pense que voilà, France-Angleterre, c'est toujours super intéressant, hein, et c'est dommage qu'on n'ait pas notre petit chouchou Antoine Dupont.
Oui, Antoine Dupont, mais c'est pour la bonne cause, on le verra au JO.
Bien sûr. Mais bon, voilà, que le meilleur gagne, et je pense que ça se passera dans une belle ambiance. Il n'y a pas de raison.
Bon, en tout cas, vous serez gagnante quoi qu'il arrive, puisque vous avez un restaurant dans chaque pays. Bon, alors Hélène Darroze, c'est maintenant l'heure de votre portrait.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renoux sur RTL.
Et pour ce portrait, si on commençait par le début, la cuisine coule dans vos veines d'enfants du Sud-Ouest. L'auberge familiale de Villeneuve de Marsan ouvre en 1895 grâce à votre arrière-grand-père et se transmet de père en fils et en fille. Les odeurs, le marché, les produits régionaux n'ont pas de secret pour vous. Et même si vous faites une école de commerce à Bordeaux, la gastronomie vous rattrape. Des classes chez Alain Ducasse avant de voler de vos propres ailes. Le restaurant familial, puis vos établissements, jusqu'à ce titre conquis en 2015 de meilleure femme chef du monde, avec des valeurs bien ancrées.
C'est une cuisine d'émotion. Moi, je vais chercher dans ce que je suis. Et ce que je suis, c'est d'abord une éducation et un terroir. Ça, c'est clair et net. Hein, donc voilà.
Aujourd'hui, vous avez plus d'étoiles sur votre toque que l'équipe de France sur son maillot. 2 pour le Marsan à Paris, 3 pour le Connaught à Londres, 1 pour la Villa Lacoste à Puy-Saint-Réparade et je ne compte pas le Bistrot Joya. Hélène Darroze, c'est un nom que tout le monde connaît, grâce à vos talents culinaires évidemment, grâce aussi à un programme dont on entend la musique et qui met en lumière la gastronomie française.
Depuis 3 ans, le gagnant de Top Chef est parti de ma brigade. Et cette année, je vais faire encore plus fort, car c'est encore moi qui vais l'emporter. Et ensemble, je vous le dis, on gagnera Top Chef.
Chut, c'est notre secret.
Top Chef, où là aussi vous brillez, 2020, 2021, 2022, 3 victoires consécutives pour vos protégés, David Gallienne, Mohamed Cheikh et Louise Bourra. Mais votre plus grande victoire a d'autres prénoms. Elles s'appellent Charlotte et Kitri, vos filles adoptées au Vietnam, tout comme celles de Laetitia et Johnny Hallyday que vous connaissez bien. 2 presque jeunes femmes aujourd'hui, les 2 étoiles dont vous êtes la plus fière.
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner.
Johnny Hallyday que vous avez souhaité écouter dans ce journal inattendu. Bon, alors un portrait, c'est toujours un raccourci. Est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter?
Non, il y aurait des choses à rajouter certainement ou quoi, mais enfin vous avez dit l'essentiel, oui, en effet, l'éducation, la famille, tout ce qui a été important pour moi à ce niveau-là. Après mes restaurants et mes équipes derrière, parce que derrière chaque restaurant il y a des équipes et c'est évident que je ne peux pas gérer ces restaurants sans elles. J'ai des collaborateurs formidables, des équipes formidables et qui me donnent beaucoup.
Et d'ailleurs j'ai une question à ce propos. Quand on a autant d'établissements que vous, évidemment qu'on se repose sur ces équipes, mais est-ce que vous mettez encore la main à la pâte ou est-ce que vous faites juste les créations de menus et est-ce que vous ne cuisinez plus vraiment au quotidien?
Non, cuisiner au quotidien, non. Moi, je suis quand même dans les cuisines au moment des services. Je suis en train de regarder tout ce qui se passe, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas celle qui fait la sauce ou qui cuit la viande ou qui
vous êtes la chef d'orchestre.
La salade. Voilà, c'est ça. Moi, je surveille beaucoup. Je suis quand même très, très, très présente. Mais les cuisines sont organisées aujourd'hui pour marcher sans que je ne sois là. C'est clair.
Et bien de tout cela, on va continuer de parler. Et puis de votre actualité aussi, c'est la nouvelle saison de Top Chef qui vient de commencer sur M6 le mercredi soir. C'est votre journal inattendu, Hélène Darroze.
J'en parlerai au diable.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL.
C'est devenu le plus prestigieux concours gastronomique de France et vous êtes l'un des piliers de ce concours depuis 2015. Je parlais évidemment de Top Chef, Hélène Darroze. La 15e saison vient de commencer sur M6. Tout s'est bien passé ?
Tout s'est super bien passé. Alors, c'était un peu une saison exceptionnelle, mais ça a été une super saison. J'espère que ça se verra en image parce que vraiment on a pris un plaisir, que ce soit les candidats ou que ce soit nous, les membres du jury. C'était génial.
Alors cette année, le jury, c'est deux équipes. Une équipe d'hommes, une équipe de femmes dont vous faites partie avec Stéphanie Lequellec qui est une ancienne gagnante du concours et Dominique Crène. Et puis de l'autre côté, on a Philippe Etchebest, Paul Perret et puis Glenn Vielle. Ce duel homme-femme, ça vous plaît ?
Ouais, enfin oui, bah c'était très rigolo, c'était très sympa, oui. C'est alors on n'a pas cherché à faire une équipe de femmes, une équipe d'hommes, les choses se sont faites comme ça plus naturellement. Mais oui, on n'a pas, c'est vrai que de toute façon on n'a pas les mêmes façons de coacher, je pense qu'il y a beaucoup plus de douceur et de bienveillance dans notre équipe, alors que chez les autres il y a cette envie,
ça pousse, mais
ça n'empêche que voilà, on s'est super challengé, on s'est super taquiné, bien sûr, comme d'habitude.
Oui, mais ça fait partie du jeu.
Ouais, mais après, quand il fallait s'entraider et se donner la main, c'était la même. On était toujours dans cet esprit-là aussi, quoi.
En tout cas, avec douceur et bienveillance dont vous parlez, vous êtes parvenu 3 années consécutives à hisser votre candidat jusqu'à la victoire. Et puis l'année dernière, vous êtes allé jusqu'en finale avec un jeune homme, Dany Quézard. Mm-hmm. Qui vous laisse un petit message.
Bonjour Hélène, j'espère que vous allez bien. C'est un petit coucou, c'est Dany. On se voit bientôt, la semaine prochaine pour le 4 mains, mais c'est juste pour vous remercier pour... voilà, ça fait un an que Top Chef est passé. Et c'est assez dingue tout ce que j'ai appris. Il y a vraiment eu un vrai déclic, je pense, sur l'émotion dans les plats. On en a déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire bonjour. Salut à tout le monde. Et je suis en plein service, donc je continue et à bientôt.
On a eu un aperçu de son rire si... Ça fait plaisir comme ça d'avoir derrière vous tout plein de jeunes chefs à qui vous avez transmis vos valeurs.
Ouais, je garde une super relation avec beaucoup d'entre eux, que ce soit mes candidats d'ailleurs ou pas. Mais Dany, c'est une personne formidable. Dany, c'était un bonheur de bosser avec lui, de travailler avec lui. D'ailleurs, voilà, il est venu faire un 4 mains.
Dans l'émission.
Avec moi dans un de mes restaurants et moi je vais à Genève la semaine prochaine chez lui le faire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui je garde une relation particulièrement forte. Voilà.
Top Chef, ça a changé quand même le regard de la cuisine pour le grand public. Est-ce que vous pensez que c'est pour le mieux ? Est-ce que vous pensez que ça peut encourager des jeunes
J'en suis sûre. Je pense que ça a en effet créé des vocations. Si on remonte 15 ans en arrière, maintenant ça fait donc 15 ans, je ne pense pas que notre métier faisait comme ça envie. Notre métier, il a souvent été considéré comme une voie de garage. C'est bien dommage, mais c'était quand même comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on fait ce métier parce que parce qu'on en a la passion, parce qu'on a envie d'aller au-delà de ce qu'on est, de pousser les limites, parce qu'on a envie de donner du bonheur. C'est un métier qui, aujourd'hui, fait envie, et la télé y est vraiment pour quelque chose, et
vous êtes
principalement Top Chef.
Vous êtes des artistes de la gastronomie. On va continuer d'en parler, mais d'abord on va écouter quelqu'un que vous avez souhaité entendre dans ce journal inattendu. Oudini, Dua Lipa, ça vous fait sourire?
Oui, parce que j'ai eu l'année dernière, j'ai eu l'occasion pour un sujet sur Vogue, j'ai eu l'occasion de passer 2 ou 3 heures avec elle. Elle est venue dans mes cuisines.
Ah oui,
j'ai cuisiné pour elle. C'est pour ça, voilà, c'est ça le clin d'œil. Et voilà, j'ai passé 3 heures avec cette star, quoi, hein, cette jeune femme juste formidable, très intéressée par notre métier. Et je lui ai fait à manger. On a pu vraiment échanger.
Eh bien, elle chante et elle aime manger, c'est Dua Lipa. Allez, on se quitte en musique. Dans un instant, les titres de 13h.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL. RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze, 13h, les titres de l'actualité, Nathalie Renaud.
C'est une information RTL que l'on vous révélait ce matin. Le rendez-vous entre Emmanuel Macron et les représentants des agriculteurs est reporté. Il était prévu la semaine prochaine. Un rendez-vous donné lors de l'ouverture chaotique du Salon de l'agriculture. Le président de la République avait demandé aux représentants agricoles de réfléchir à 4 ou 5 demandes principales. Une cellule psychologique ouverte au collège Édouard Herriot de Chenôve en Côte d'Or au lendemain de la tentative d'agression de la principale par un adolescent avec un couteau. Le jeune homme de 15 ans est toujours en garde à vue ce matin. Hier, il est rentré dans l'établissement muni de ce couteau de cuisine. La principale a réussi à s'enfuir. L'adolescent n'a fait aucun blessé. Une enquête a été ouverte notamment pour menace de mort. Deuxième jour d'élection présidentielle en Russie. Aucun doute sur l'issue du scrutin. Vladimir Poutine sera réélu. La Russie qui affirme ce matin avoir repoussé de nouvelles incursions venues d'Ukraine. Selon Moscou, un missile a fait 2 morts et 3 blessés à Belgorod, ville russe toute proche de la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, c'est jour de crunch dans le tournoi Destination France-Angleterre en rugby. Coup d'envoi à 21h à Lyon. On suivra la rencontre dans RTL Foot dès 20h30 avec Jean-Michel Rascol aux commentaires. Et puis en football, justement, c'est la suite de la 26e journée de Ligue 1. Nantes reçoit Strasbourg à 17h et Nice se déplace à Lens à 21h. Et puis du vélo. Premier moment fort de la saison 2024. Le Milan-San Remo. Le départ a eu lieu ce matin. 288 km pour départager les stars du peloton. Arrivée prévue à 17h. Et maintenant, on part en mer.
Prenez le large avec le journal inattendu sur RTL.
Comme chaque samedi, on retrouve l'équipage de Triana lancé dans l'Ocean Globe Race, course autour du monde sans assistance électronique, et son skipper Jean Dartuy qui est dans l'Atlantique. Bonjour Jean, comment ça va pour cette dernière étape de la course?
Bonjour, bah écoutez, très bien, on est reparti comme vous savez pour la 4e et dernière étape de la course autour du monde. Donc on est reparti de Punta del Este, Uruguay, et là donc on remonte actuellement le long des côtes du Brésil, vers l'équateur, vers le fameux poteau noir qu'on va traverser de nouveau. 6 mois après l'avoir traversé en descendant, on va le traverser en remontant. Et donc actuellement, il y a assez peu de vent. Il y a un régime de vent d'est assez faible, ce qui fait que c'est une régate difficile pour les équipages et pour les nerfs. Et donc, il faut être très, très concentré sur le bateau pour nous faire avancer avec très peu de vent. Voilà un peu l'enjeu du moment.
Est-ce que c'est d'autant plus difficile que vous savez que la ligne d'arrivée n'est maintenant plus très loin ?
Oui, absolument. On est à la fois tous très contents de rentrer vers la maison, mais aussi un peu angoissés de cette fin de course, parce que c'est d'une telle intensité que le risque de dépression, au sens l'arrêt total d'intensité, va nous replonger dans la vie citadine et quotidienne qu'on a quittée il y a presque un an. Donc c'est vrai que c'est à la fois une grande joie et un peu une inquiétude pour tout le monde de rentrer. Donc comme toutes les aventures très fortes, voilà, c'est un petit mélange et beaucoup d'émotions à l'idée d'arriver. Et puis, vous savez, à cette merveilleuse aventure s'ajoute la perspective d'éventuellement une très belle performance. Donc, je crois que pour l'équipage, c'est une aventure formidable.
Bon, eh bien, écoutez, bonne continuation. On prendra de vos nouvelles la semaine prochaine et on espère que tout va bien se passer d'ici là.
Bon, merci, salut à tous les terriens et puis on se rappelle dans une semaine pour faire un point.
Et oui, on retrouvera Jean la semaine prochaine. Allez, c'est l'heure de la météo et c'est la tradition dans le journal inattendu. C'est à vous, Hélène Darroze, de nous la donner.
Alors, c'est à moi. Après-midi doux et bien ensoleillé sur une grande partie du pays, avec tout de même quelques averses encore possibles dans l'Est. Par ailleurs, une grisaille assez dense s'imposera entre la Bretagne et le Limousin, où quelques ondées ponctuelles sont prévues. Comptez 13 degrés à Lille, 14 degrés à Brest, 16 à Paris, 17 degrés à Lyon, 19 à Toulouse, 20 degrés à Marseille et même 21 degrés sous le soleil à Mont-de-Marsan.
Eh oui, évidemment, ça c'était le clin d'œil le pour clin vous. D'œil. Merci beaucoup Hélène Darroze.
Comment pourrions-nous prétendre être les héritiers de Gusto si nous ne respectons pas sa conviction la plus profonde?
À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou?
Tout le monde peut cuisiner.
Ça, c'est un extrait de Ratatouille, oui. Le dessin animé de Pixar, l'histoire d'une souris ou d'un petit rat qui devient chef. Et il y a un personnage féminin, Colette. A priori, c'est vous qui l'avez inspiré.
Eh ben oui, c'est pas a priori, c'est bien vrai. Oui, les clips de Pixar étaient venus quelques jours dans mes cuisines. C'était ouais, 2 ou 3 ans avant que le film ne sorte. Et en effet, oui, c'était pour s'inspirer pour le personnage de Colette.
Mais voilà. Quelle fierté,
ouais. Sauf que Colette est brune avec des yeux noirs, et c'est pas trop mon cas.
Ouais, c'est pas grave, c'était une libre réinterprétation.
Voilà, exactement.
Alors justement, les femmes au fourneau, on va en parler. Au quotidien, à la maison, c'est vrai qu'elles y passent du temps, mais en gastronomie, peut-être un peu moins. En 2021, il y avait 39 femmes étoilées en France contre 27 en 2019. Ça veut dire que quand même, ça progresse, on va en reparler. Mathias Luguin est avec nous, comme chaque samedi. Bonjour Mathias.
Bonjour Nathalie, bonjour.
Et Mathias, vous vous êtes penché sur cette question du rapport des femmes et de la cuisine.
Qui fait la cuisine à la maison? On aura envie de se dire qu'aujourd'hui, cette tâche est partagée dans les foyers. Et pourtant...
C'est moi, parce que je suis la seule à savoir le faire.
C'est moi.
Ah bah moi.
Maman, papa aussi un peu.
Moi? Bah oui, parce que mon mari cuisine pas, donc voilà.
Oui, moi.
Monsieur, essaye de changer.
Bon, c'est déjà un bon début. D'autres pointent une question générationnelle, comme Pedro.
Je m'occupe qu'elle ait mangé, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez mon âge, donc à cette époque-là, les hommes ne cuisinaient pas, sauf les chefs. Et moi, j'appartenais pas à la catégorie des chefs, donc... Je n'ai pas eu besoin de faire de la cuisine, je ne l'ai pas faite, j'ai fait autre chose à la place. Ça évolue. Ouais. Le seul qui n'a pas évolué, c'est moi.
Il faudrait lui demander s'il faisait la vaisselle.
Bon, donc ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais c'est en marche. Et il y a de l'espoir quand même.
Mon mari et moi, celui qui rentre le premier du bureau, donc ça dépend, c'est un peu chacun son tour. Ouais.
Alors essayons à notre échelle de faire bouger les lignes. Je vous propose d'écouter la recette phare de Valérie Quintin, notre journaliste météo.
Tu prends le sachet de salade, tu ouvres le sachet de salade, tu mets de la vinaigrette dedans, de la bonne vinaigrette. Tu secoues le sachet en le fermant, sinon il y en a partout, et après t'as plus qu'à manger.
Et bon appétit bien sûr.
Et alors rajoute pas, franchement. Quand on entend ça, on a vraiment envie d'aller plus vite sur le partage des tâches. Mais je vais vous rassurer, pour le grand public, lorsque l'on parle de chef, on cite beaucoup de femmes.
Madame Pic,
Nina Métayer,
Pic, Darroze, Lequelec,
Anne-Sophie Pic,
Hélène Darroze,
Stéphanie Lequelec,
Hélène Darroze.
Regarde Top Chef, est-ce que ça a l'air trop bon?
Et le succès de Top Chef, c'est le genre de chose qui peut contribuer à faire évoluer les choses et l'image de la cuisine. Tout ça, ça commence à donner quand même un petit peu faim, on va pas se mentir. Mais comme j'ai eu, comme nous avons eu, Nathalie, je vous connais, eh bien, la déception de vous voir arriver les mains vides, Hélène Darroze, je me suis invitée à la table de l'une des passantes.
À midi, on mange du poulet à la crème avec un petit peu de pâte et du parmesan.
Bon, ça devrait être pas mal quand même. On retente le coup, tiens, avec notre chef maison pour le dessert, Valérie Quintin, qu'est-ce que vous nous proposez?
Une boîte de lait concentré, au bain-marie, 2 heures, bim, confiture de lait.
Bon, ce qui est bien avec Valérie, c'est que si elle devait écrire une anthologie de ses meilleures recettes, ça pourrait tenir sur un post-it. On va se dire qu'on sera déjà bien repu, qu'on aura bien mangé, et peut-être qu'on fera l'impasse donc sur la touche sucrée. Sauf Hélène Darroze, si vous insistez vraiment pour qu'on fasse un petit détour par l'un de vos établissements.
Ah bah, avec grand plaisir. Hein. Alors là...
Franchement, je préfère manger chez Hélène Darroze que chez Valérie Quintin. Ça,
on lui dira.
Alors, je vais quand même revenir sur ce que disait ce monsieur un peu âgé qui disait « Non, autrefois, les messieurs, ça ne cuisinait pas, sauf les chefs ». Il y a un truc quand même. Hein.
Ah ouais, ouais, il y a un truc. Bon, ça évolue, hein, ça mais évolue, oui. Parce que moi, je connais plein. Moi, j'ai plein de copains, même bon, dans ma famille, j'ai tout mon frère, mes cousins, tout ça, ils cuisinent tous, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est familial, quoi. Hein. Mais quand même, je crois qu'il y a une belle évolution. Mais ça reste quand même, oui, ça, c'est quand même la femme
qui fait la cuisine, au quotidien. Ouais, ouais. Et la féminisation du métier de chef et de la grande cuisine, est-ce qu'elle est en cours, vous trouvez?
Oui, mais oui, bien sûr. Enfin, oui, ça a beaucoup évolué hein, depuis que moi j'ai commencé. Je pense où j'étais avec Anne-Sophie, on était peut-être les seules. Donc ça aujourd'hui on voit, c'est vrai, plein de jeunes femmes étoilées. Je pense qu'ils iront très loin. Ça c'est clair. Donc voilà. Mais c'est pas assez. C'est toujours pas assez. C'est toujours très lentement. Mais voilà. Mais c'est normal parce qu'à un moment donné, alors j'ai jamais parlé de sacrifice parce que j'ai jamais fait de sacrifice par rapport à certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a des choix qui s'imposent. Il y a des choix, il faut accepter des choses que toutes les femmes ne sont pas prêtes à accepter.
C'est-à-dire de travailler le soir.
De travailler le soir, de ne pas être là pour raconter la petite histoire et donner le bain, de travailler le week-end aussi, hein, parce que c'est le soir, mais c'est aussi les week-ends. C'est de travailler.
Bah, quand les gens, eux, ne travaillent pas et viennent au restaurant.
Voilà, moi, quand j'ai choisi de faire ce métier, mon papa m'a dit ok, sache juste une chose, tu vas travailler quand les autres s'amusent et ce n'est pas toujours facile. Et c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Moi, je trouve pas ça difficile, mais en tous les cas, c'est la vérité. C'est un choix à faire.
Alors, d'autres femmes ont fait ce choix, des femmes que je vous propose d'écouter.
Ça, c'est pour mettre sur la soupe. Ce sont des châtaignes. Et puis, on les a coupées en morceaux et à la poêle, on va les faire griller.
Aujourd'hui, nous allons réaliser une entrée extrêmement facile, de toute saison, je dirais, autour du saumon cru, assaisonné d'un petit peu de sauce ponzu et de chiseau vert et pourpre.
Alors, gratin dauphinois, il y a 100 000 façons de le faire, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la façon originale, telle que moi, j'ai pu goûter tous les mercredis dans mon enfance. Et Dieu sait si j'en ai mangé.
Un petit pain de campagne en moyen, il y a plus gros. J'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Et on referme le couvercle et on mange.
Eh oui, c'était Guylaine Aravian, Stéphanie Lequellec, Anne-Sophie Pic et Maïté, de grandes femmes de la gastronomie française, sur un fond musical de votre choix, c'est un homme et une femme. Qu'est-ce qui reste encore à parcourir comme chemin pour parvenir à la parité? La parité, par exemple, dans Top Chef, dans les candidats, elle n'y est pas.
Ah non, mais non, chaque fois on nous pointe du doigt, on nous dit mais il n'y a pas assez de femmes, etc. Mais c'est juste le reflet de notre profession, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Mais une fois de plus, c'est dans la tête des femmes. Moi, je pense que c'est surtout là-dedans, se dire qu'on peut être maman autrement, qu'on peut être épouse autrement, qu'on peut être... Regardez Stéphanie Lequellec, c'est un vrai exemple, quoi. Hein. Elle a 3 enfants, elle a eu 2 enfants en début de carrière, et regardez, elle est arrivée aujourd'hui et c'est pas fini, hein, parce que je pense qu'elle a une carrière formidable devant elle, un restaurant doublement étoilé, un autre restaurant à côté, et en plus des restaurants qui lui appartiennent, elle est consultante dans d'autres, elle a ces petites boutiques MAM où on va chercher à manger, où on se régale, et elle a ses 3 enfants, dont un petit de 6 ans encore.
Et ça ne fait pas d'elle une mauvaise maman?
Ah ben, ses enfants, moi, je suis allée...
Non, mais c'est ça qu'il faut préciser.
Je lui disais que comment ses enfants étaient bien élevés, bien éduqués. Et voilà, et c'est pareil. Moi, je pense que mes filles sont super équilibrées. En tous les cas, c'est chaque fois que je sors avec elles, on me dit, oh là là, mais elles sont bien élevées, elles sont bien éduquées, elles sont sereines.
Est-ce qu'elles vont souffrir de vous voir travailler justement en décalé?
Quand il y a eu le Covid et que je suis restée à la maison et voilà, et qu'on a vécu ces bons moments, c'est vrai que ma grande Charlotte, quelques mois après, quand tout a repris, elle m'a dit, mais maman, tu te rends compte, il a fallu le Covid pour qu'on vive une vie normale et pour qu'on, voilà, et je sentais un peu d'amertume, mais voilà, mais en même temps, voilà, elles ont l'exemple d'une maman qui travaille, qui s'épanouit, qui donne du bonheur aux autres, et je pense que, sincèrement, on arrive à trouver un équilibre qui convient à tout le monde, et ça se fait dans beaucoup d'amour, et ça c'est le plus important, quoi.
Allez, une femme encore dans vos choix musicaux.
Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi sois-tu.
Pourquoi Mylène Farmer?
Bah parce que je trouve que c'est une immense artiste, une showwoman, on va dire, aussi incroyable. Et surtout pour moi, ça représente mon adolescence et le début de ma période adulte. Et je sais pas, elle a vraiment marqué cette période-là pour moi. Et donc ça me ramène à de très beaux souvenirs.
Dans un instant, la cause des femmes, on va continuer d'en parler, mais cette fois dans un pays où elles n'ont plus aucun droit, l'Afghanistan. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Hélène Darroze. C'est tout de suite dans votre journal inattendu.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL.
Hélène Darroze, vous défendez la cause des femmes dans la gastronomie française, mais bien au-delà. Et vous avez souhaité inviter ce midi Shekeba Hashemi, diplomate afghane, qui a créé l'association Afghanistan Libre en 1996. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité l'inviter ?
Bah parce que l'Afghanistan, on n'en parle plus, alors que c'est certainement le pays où la femme n'a plus aucun espace de liberté, quoi. Donc il faut quand même le dire, le faire savoir et peut-être faire ouvrir les yeux à certains de ceux qui nous dirigent.
Bah oui, à la communauté internationale aussi. Alors on accueille Shekeba Hashemi, bonjour.
Bonjour.
En 2021, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et c'est un cauchemar pour les femmes qui ont vu leurs droits se réduire quasiment à néant aujourd'hui.
Exactement. En 2021, quand les talibans version 2 sont arrivés à Kaboul, en un jour, le jour même quasiment, ils ont interdit tout aux femmes et jusqu'à encore la semaine dernière, l'interdiction, le dernier rempart de liberté qui était le téléphone portable, elles n'ont plus droit non plus à ce téléphone. Il faut savoir qu'il y a 28 millions de femmes et de petites filles dans ce pays et que contrairement en 96, la première fois où ils avaient pris le pouvoir, en 2021, nous tous, la communauté internationale, on a nos responsabilités puisqu'on sait très bien quel est le visage de ce régime le plus terroriste et quelle était leur politique pour opprimer ces 28 millions de femmes qui sont mûres et vivantes aujourd'hui.
Les filles ne vont plus à l'école, les femmes ne peuvent plus se rassembler chez le coiffeur par exemple, tout est interdit en réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Écoutez, on peut faire déjà en parler, comme là, aujourd'hui je suis là aux côtés d'Hélène pour qu'on en parle et qu'on n'oublie pas ces Afghanes, sensibiliser tous ceux qui nous écoutent, chacun à notre niveau, les politiques, les journalistes. Heureusement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la société civile en France est quand même très concernée par le sort des femmes afghanes. Mais si on n'a pas une vraie volonté politique de nos dirigeants, pour comprendre que ce qui se passe en Afghanistan n'est pas... Parce qu'au-delà des femmes afghanes, en fait, ce pays est devenu un laboratoire de fabrication des terroristes internationaux. Donc ce qui se passe en Afghanistan nous concerne tous, nous concerne ici en France. Donc on ne peut pas aujourd'hui, et puis en tant que femme, parce que ça c'est le sujet dont vous parlez, vous abordez avec Hélène, je pense qu'en 2024, on ne peut pas prétendre qu'on a gagné tous nos droits en tant que femme de ce côté de la planète, alors qu'il y a des coins de la planète où elles ont les droits les plus primitifs, les droits les plus, enfin je veux dire, les plus fondamentaux qui ne sont même pas respectés, c'est-à-dire le droit à l'air libre, de se faire soigner, d'aller à l'école, enfin tout, je ne vais pas vous faire la liste, en fait elles n'ont plus aucun droit.
Et vous, en tant que femme afghane, quel est votre rapport aujourd'hui avec votre pays ?
Écoutez, moi je suis franco-afghane, je connais Hélène depuis maintenant plus de 23 ans, 22 ans je crois, ça ne nous rajeunit pas. et mon rôle c'est déjà aussi d'avoir les ambassadrices et ambassadeurs de la cause. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez Hélène Darroze qui parle des femmes afghanes, et ça fait 20 ans que je l'emmerde, la pauvre, je l'embête, pardon.
Non, vous n'avez pas l'air de l'embêter, je pense que ça lui tient à cœur.
Oui, parce que voilà, et puis aujourd'hui... C'est aussi le sort de toutes les femmes dans le monde. Je me bats aussi contre le viol comme arme de guerre et enlever des petites filles de 4, 5 ans, 6 ans, un mariage forcé par les terroristes en Afghanistan, c'est une forme de violence et de viol au quotidien. Et c'est vrai que pour en revenir à mon combat, c'est que je suis aussi très fière. On est maman de filles avec Hélène, elle a ses deux filles, j'ai la mienne, et on est aussi des rôles modèles. Donc j'entendais Hélène qui parlait de son travail qui lui prend tellement de temps et le bonheur qu'elle donne autour d'elle. Mais on est aussi des rôles modèles et on est bien fiers aussi, avec nos engagements, de donner cet exemple-là à nos filles qui sont la future génération de femmes engagées. Et ça nous démontre que voilà, on peut pas rester que dans notre milieu. On doit être ouvert à voilà, toutes les causes qui concernent les femmes aujourd'hui dans le monde.
Eh bien, merci infiniment d'être venu pour pousser ce cri dans RTL en direct ce midi. Merci à vous. Et on pense évidemment aux femmes afghanes en espérant que le sort va s'éclaircir. Hélène Darroze, votre journal inattendu se poursuit. On va rester quelques instants avec Jane Birkin que vous avez choisi d'écouter. Puis on se retrouve justement pour parler peut-être de votre vie un peu plus personnelle. À tout de suite.
Dis toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort, à raison, à quoi bon ?
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL. Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Nathalie Renaud sur RTL.
Elles s'appellent Charlotte et Kitri. Vous les avez adoptées au Vietnam. Ce sont vos deux filles, Hélène Darroze. Et il n'y a pas une semaine où vous ne dites pas votre fierté de voir les femmes qu'elles sont en train de devenir, notamment sur les réseaux sociaux. L'adoption, c'est une aventure. Comment est-ce que vous en parlez avec elles ?
Pas si souvent que ça, hein, parce que et puis très librement, quoi. Hein, elles connaissent leur histoire, elles connaissent pas non l'identité de leur géniteur, mais elles savent comment tout s'est passé. C'est tout est clair. Le jour où moi j'ai décidé d'adopter, j'ai eu un conseil d'une de mes amies qui était aussi une maman d'un grand garçon maintenant adopté, qui m'avait dit écoute, tout ce que tu dois faire pour dans ta démarche d'adoption, tu dois pouvoir un jour leur avouer. Et j'ai vraiment pris l'adoption comme ça, je trouve que c'était un très beau conseil, donc voilà, je peux tout leur raconter.
Tout se fait en transparence.
En transparence, mais pour elles, ce sont elles connaissent leurs racines, elles savent où elles sont nées, mais ce sont deux jeunes femmes françaises dont je suis la maman,
Et alors, est-ce que l'une d'elles, ou les deux d'ailleurs, a envie de faire de la cuisine ?
Ça, c'est la question que tout le monde me pose maintenant qu'elles deviennent qu'elles grandissent. Eh ben pour l'instant, non, pas du tout.
Mince alors.
Pas du tout, non. Je pense que ça, c'est un peu un truc perdu.
Et ça vous fait un pincement au cœur de savoir
non.
que... Parce que vous, je l'ai dit dans votre portrait en tout début de cette émission, la cuisine, c'est un héritage familial, ça remonte à votre arrière-grand-père.
Ouais, et pourtant, c'était pas moi qu'on attendait. Hein. Je pense que papa l'a souvent dit, c'était mon frère qui l'attendait.
Il y avait encore tradition du fils qui reprenait la cuisine.
Après, je pense qu'il a été très content, papa. Mais voilà. Donc voilà. Mais moi, je suis arrivée sur le tard, donc on sait jamais. Peut-être que mes filles, ça va se révéler, on sait jamais.
Et si la lignée s'arrête là, est-ce que c'est grave ou est-ce que finalement ça n'est pas si important que ça ?
Moi j'y pense pas. Hein, voilà, c'est moi ce que je veux pour mes enfants et mes neveux et voilà, c'est qu'ils soient épanouis, c'est qu'ils soient heureux, aussi heureux que moi mon métier m'a rendue heureuse quoi. Donc par contre voilà, là où c'est ce que ma maman m'a souvent dit à moi et j'essaye de leur transmettre aussi, c'est que voilà, on doit être indépendante par son travail quoi. Cette question d'indépendance pour une femme est très importante à mes yeux. Comme elle a été pour ma maman et elle m'a bien fait la leçon.
Allez, on va terminer par quelques petites questions à choix multiples. Mont-de-Marsan ou Paris ?
Oh, aujourd'hui, c'est Paris. Hein, c'est Paris. Mais même si j'adore revenir, alors plus dans le Pays Basque aujourd'hui que dans les Landes, parce que pour des questions de où se trouve ma famille, mais aujourd'hui, pour moi, le quotidien, c'est Paris.
Carotte ou céleri ?
Ah, carotte.
Je crois que vous détestez ça. Hein,
le céleri, c'est pas mon truc. Ouais.
Viande ou poisson ?
Plutôt poisson, mais avec le grand plaisir de manger de temps en temps de la viande. Mais plutôt poisson. Et des poissons, bien sûr, qui s'inscrivent dans la démarche d'une pêche raisonnée. Quoi.
De la viande avec parcimonie, c'est bien, vous êtes ouais, verte. Ouais. Fromage ou dessert ?
Oh, les deux. Difficile de choisir.
Écoutez, la semaine dernière, à votre place, je recevais un humoriste du Sud-Ouest. C'est Maxime Gasteuil. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maxime Gasteuil, qui est à l'affiche d'une comédie qui s'appelle 14 jours pour aller mieux. Et il vous a laissé un message.
Je trouve qu'elle a un tempérament extraordinaire. Je rêve de la rencontrer. Je viendrai dans ses restaurants. Voilà. Je l'aime.
Hélène, allez, je t'aime.
Ah, si.
Comment mieux terminer cette émission?
En effet, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, merci pour ces jolis mots.
Et l'amour, vous en donnez dans vos cuisines de vos quatre établissements. Et puis, on vous retrouve aussi tous les mercredis soirs sur M6, 21h, pour la 15e saison de Top Chef. Vous nous avez dit qu'elle était alléchante. Donc, on va continuer à regarder.
Ouais, vous allez bien vous amuser.
Merci beaucoup, Hélène Darroze, d'avoir été mon invitée aujourd'hui en direct sur RTL. Dans un instant, c'est Entrer dans l'histoire, Laurent Deutsch. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. RTL.